Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Je me réjouis. C'est parti pris que j'ai pris de me réjouir, de voir des têtes nouvelles chaque dimanche. Alors nous n'avons pas une procédure particulière hein, pour accueillir les nouveaux. Nous avons à cœur dans l'Église de ne pas mettre le grappin sur les gens. C'est un lieu de liberté. On peut entrer ici. Et figurez-vous qu'on peut sortir. Il y a des fois, peut-être la parole prêchée, peut-être quelque chose à blesser. Donc on est libre. Mais on en discutait avec les anciens, on se dit à un moment, il faudrait quand même que ceux qui viennent, j'ai fini par retenir les prénoms. Je voyais une sœur burkinabèse la semaine dernière. Alors bon, j'aime toutes les nations, mais bon, une petite lien de mon cœur pour le Burkinabé. Nous n'avions pas de Burkinabé dans l'Assemblée, nous en avons, ça me réjouissait. Et alors j'étais contrarié parce que je l'avais déjà vu une fois, j'avais vu sa sœur et j'arrivais pas à retenir les prénoms. C'est encore pas tout à fait fait, mais bon, c'est comme ça. Elle a reconnu que, comme de temps en temps elle change les coiffures, c'est pas facile. Ah ben moi je dis les choses, hein. Voilà. Mais on a le droit de changer de coiffure, hein. Après, je ne sais pas pourquoi. Hein. Ça, c'est chacun qui voit. Hein, c'est chacun qui voit. C'est vrai que c'est un moment important de partager la parole de Dieu. Vous savez, on est dans des temps où il y a beaucoup de choses. À l'Église, on pourrait tenter un peu de créer une ambiance. Et je crois que il y a des combats là-dessus. La mission de l'équipe de louange est une mission délicate aujourd'hui. Et je me réjouis ce matin. On a eu des très beaux chants. Les chants que l'Assemblée chante de tout son cœur. Et vraiment, je me réjouis de cela. Un chant que j'aime beaucoup. Et je demanderai à l'équipe de louange, peut-être à la fin de ce message, de le reprendre. C'est « Je louerai l'Éternel ». Je pense qu'il y a une onction sur ce chant. Voilà, mais ne me demandez pas d'expliquer pourquoi, mais plusieurs le sentent. Il y a vraiment quelque chose. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, à lui seul, soit la gloire. Et je crois que depuis le début de ce culte, c'est ça que nous avons à faire. Sans l'œuvre de Dieu, Daniel le rappelait, on peut semer, ça c'est notre œuvre, de semer, d'arroser, l'un sème, l'autre arrose. Mais c'est Dieu qui fait croître. Si Dieu n'intervient pas dans nos cœurs pour déchirer le voile, il ne se passera rien. Il ne se passera rien, on pourra avoir toutes les stratégies qu'on veut, il ne se passera rien. Il faut l'œuvre de Dieu, ça humilie nos cœurs. Mais alors après on dit, je te louerai de tout mon cœur, toute ma vie. Hein. Je voudrais partager avec vous ce matin, je vais prier avant de commencer. Seigneur, merci, tu es Dieu, tu es le seul Dieu. Seigneur, il y a plusieurs chemins, plusieurs choses dans lesquelles nous pouvons saisir qu'il y a un Dieu. Mais il n'y en a qu'un pour que nous te découvrions comme notre Père. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Nous te remercions encore ce matin de ce que c'est le nom de Jésus-Christ qui a été honoré. Nous voulons encore et je voudrais encore, Seigneur, à travers, en partageant la parole avec mes frères et sœurs, Seigneur, que ce soit ce nom, le seul nom qui nous a été donné, qui soit honoré, glorifié, celui qui a souffert. Il était nécessaire qu'il souffrit, soit porté à la perfection par la souffrance pour conduire un grand nombre à la connaissance de Dieu comme Père. Alors Seigneur, je te prie de me guider, que tout Seigneur, ce qui peut venir de mon être, de mes convictions, peut-être de ma chair, Seigneur, soit bridé par toi et que, placé devant mes frères et annoncer ton conseil, viens à mon aide, à mon secours ce matin, Père. Amen. Amen. Je vous invite à prendre dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, nous lirons les versets 36 à 50. Luc chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés. Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ce texte, ce récit, se situe dans le ministère de Jésus, après notamment le discours qu'on appelle un discours de Jésus sur le royaume, le sermon sur la montagne, « Heureux les pauvres, les persécutés, etc., les méprisés. » Dans ce sermon sur la montagne, il y a une deuxième phase, des fois qu'on... Hein, heureux, mais malheur à vous, riches, rassasiés, vous qui riez, etc. Lorsque, malheur à vous, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. On est dans la phase où Jésus-Christ vient manifester le royaume de Dieu. On est dans la phase de transition entre les deux alliances, et j'y reviendrai. Et puis, ensuite, Jésus manifeste à travers des miracles tout à fait extraordinaires qui encouragent à la foi. Il y a le centenier et son serviteur, la veuve de Naïm. Et enfin, tout cela est tellement perturbant, le royaume de Dieu, c'est tellement perturbant par rapport au contexte de l'époque, que même Jean-Baptiste, qui a annoncé Jésus, se pose des questions, est-ce bien celui qui doit venir, etc. Et la réponse de Jésus, elle est double. Elle va d'abord dire à Jean-Baptiste, les aveugles le voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ces miracles ne sont pas tout à fait réalisés par Jésus, accomplis par Jésus au hasard, ils ont une résonance spirituelle évidente, les aveugles voient, et on sait que la révélation nous ouvre les yeux. Là, il s'agit de miracles physiques, mais le Seigneur nous parle à travers ces miracles, hein, il veut manifester le royaume, les boiteux marchent, la parole nous dit que tout ce qui est boiteux soit affermi en marchant sur la voie droite, les lépreux sont purifiés, on sait combien la lèpre est un symbole explicite dans la Bible du péché. Les sourds entendent, nous avons ces paroles, sur le problème de l'endurcissement du cœur qui ferme les yeux et bouche les oreilles. Et puis, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus, d'ailleurs, profite de cette occasion pour souligner que quand on ne veut pas entendre, on n'entend pas. Il s'adresse aux religieux. Alors, je voudrais tout de suite faire, quand on parle des religieux, des pharisiens, les termes d'hypocrite viennent rapidement, et c'est bien sûr pas pour nous, c'est pour les autres. Faut faire très attention à ça. Parce que j'aime à rappeler que les pharisiens, qui sont des docteurs de la loi, un certain nombre sont sous la loi, ils seront donc jugés selon la loi. Et un certain nombre ont eu à cœur de bien l'accomplir. Donc ne nous mêlons pas, nous, de juger cela avec le regard que nous avons, et nous nous en réjouissons, de la nouvelle alliance, de la grâce et de la vérité, et je vais revenir. Hein? Mais, petit, quand même, parenthèse, parce que des fois, on dit, ah, les pharisiens, puis alors ça y est, on est bien tranquille, sur sa chaise, on se dit, oh, ça c'est eux, ça c'est pas moi, etc. C'est un peu plus compliqué que ça, cette affaire. Mais en tout cas, Jésus dit, Jean-Baptiste est venu jeûnant et priant, et vous dites, il a un démon, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant avec les pécheurs, et vous dites, c'est un mangeur, c'est un buveur, un ami des publicains. De toute façon, si vous ne voulez pas entendre, vous n'entendrez pas. C'est ça qui est peu qu'il faut retenir. Mais il termine en disant, la sagesse a été justifiée par ses enfants. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu et la manifestation à travers Jésus-Christ, à un moment, et ça va être le cas de cette femme, s'il y a un cœur qui reconnaît, eh bien, il va entrer dans ce royaume. Je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que le ministère de Thérèse de Jésus et cette manifestation du royaume, parce que c'est pour ça qu'il est venu, pour manifester le royaume, et finalement que ce royaume puisse s'ouvrir au plus grand nombre à travers sa mort sur la croix, c'est son seul but pour lequel il est venu, la manifestation de ce royaume, ça secoue tout le monde. Alors on a du mal à se replacer à l'époque, mais je vais essayer de le faire, pour qu'on comprenne un peu l'importance de ce récit. Ce récit, il y a trois personnages principaux. Il y a une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. C'est à peu près tout ce qu'on sait développer cette femme pécheresse. Il y a un pharisien. N'oublions pas que c'est d'abord un pharisien, un docteur de la loi. Paul va nous dire, j'étais de cela, pharisien de la secte la plus dure, la plus attachée à la parole, mais qui croyait à la résurrection, notez-le bien, par rapport aux sadducéens. Et puis il y a Jésus. Et dans ce texte, c'est la femme ne parle pas. Vous pourrez reprendre ce texte. Le pharisien parle à l'intérieur de lui-même, et ensuite va répondre aux questions de Jésus, et c'est Jésus qui parle. Hein? Alors, la femme pécheresse. Qu'est-ce qu'une femme pécheresse dans des textes comme celui-ci? C'est au moins une femme aux mœurs, on va dire, légères. Alors, la légèreté des mœurs aujourd'hui, on ne sait plus trop où mettre le curseur. Hein? Bon, je vais y revenir. Là aussi, petite précaution au début, je ne voudrais pas que nos sœurs ou nos amis qui sont là disent « Waouh, ça commence bien, avec c'est les femmes encore ». Non, non, attendez, patientez, ne fermez pas vos oreilles, je vous en prie. Donc c'est au moins une femme mœurs légère ayant eu plusieurs hommes dans sa vie, peut-être, sans doute, une prostituée. Sans doute une prostituée. Je ne développe pas les raisons qui nous amènent à penser ça à partir de la parole. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais quand même rappeler le plan de Dieu pour l'homme et pour la femme, assez brièvement. Dieu aime l'homme et la femme, il les a créés l'un et l'autre, c'est son œuvre, c'est absolument harmonieux et c'est très bon. A dit l'Éternel lorsqu'il a créé l'homme et la femme, et pour ce travail, il ne s'est pas contenté, comme pour le reste de la création, d'ordonner aux éléments que les choses arrivent, il s'y est mis lui-même. La Trinité s'y est mise, faisons l'homme à notre image. Homme et femme, il les créa, c'est merveilleux. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a des rôles un petit peu différents. L'homme est appelé le premier d'abord, dans un rôle, il faut le dire, d'autorité, c'est lui qui a reçu la parole. Un rôle de bienveillance, un rôle de protection, manifestant force, courage. On voit souvent dans l'homme l'image du guerrier. Vérifiez, relisez toute la parole de Dieu, vous pourrez vérifier ce que je suis en train de vous dire là. Et ceci dans un but, c'est que la femme que Dieu a mis aux côtés de l'homme puisse exprimer, j'allais dire, tout le potentiel que Dieu a mis. Moi, je suis toujours émerveillé. Parfois, il y a une pointe de jalousie devant la capacité de multitâche des femmes. Ça, c'est quelque chose que... Qui c'est qui a dit quand même, là ? Amen, amen. Capacité de multitâche. Bon. Je rappelle, vous le savez, ceux qui viennent fréquemment là, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. La femme souvent comparée à une vigne. J'aime beaucoup la vigne. Vous voyez, ma sœur, j'aime beaucoup la vigne. Parce que la vigne, il y a une prolifération, c'est extraordinaire. Et elle donne beaucoup de fruits quand elle est bien abritée. Il nous est dit dans la parole, souvent elle a besoin d'être entourée d'une clôture. Parce qu'à la fois, elle a une grande vitalité, mais extrêmement fragile. Ce n'est pas une écorce comme des arbres, c'est assez ligneux. Et les petits renards même, les simples petits renards, peuvent la dévorer. Il y a besoin d'une protection. La vigne, la femme, le peuple de Dieu, l'Église. Vous traversez la Bible et vous allez retrouver sans cesse ces images. La femme, fiancée, l'épouse, le peuple de Dieu, l'Église... Celle que l'homme doit aimer, chérir de tout son cœur, celle que Dieu aime, son Église. On ne peut pas, il faut avoir en permanence ces images-là en tête. Elle est multitâche, la femme, elle tisse des relations, elle a un sens pratique extrêmement développé. Pour que tout ça puisse s'exercer, il faut qu'il y ait un cadre, un environnement, non pas un joug, et là toute la difficulté, puisque, je vous rappelle, vous n'avez pas oublié, qu'entre la création et aujourd'hui, il y a eu la chute. Le péché a détourné l'un et l'autre de ce plan, je vais très vite parce que ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais on ne peut pas comprendre sinon ce texte. Chez l'homme, la force est devenue violence, domination, le courage, le guerrier... devant son incapacité à faire soi-même, parce que l'homme séparé de Dieu, c'est cuit, eh bien, a été remplacé par l'orgueil, suite aux frustrations, à la colère. Chez la femme, ce besoin d'être aimé, le besoin primordial qui nous est rappelé par Paul dans la lettre aux Éphésiens, quand il conclut au chapitre 5, « Du reste, que l'homme aime sa femme comme lui-même, que la femme respecte son mari, il fait la synthèse du besoin premier de l'un et de l'autre, eh bien, la femme, le besoin d'être aimée, va chercher à être satisfait, et comme l'homme ne répond plus à ça parce qu'il y a eu des chutes et que lui-même recherche par l'acheter sa jouissance, eh bien, la femme va utiliser parfois la séduction. Que ce soit la beauté physique, travaillée, plus ou moins sophistiquée, ou encore la capacité de porter des enfants, je dis des choses très concrètes, très difficiles mais peut-être, mais pour éventuellement, quand même un peu la femme qui sait où elle en est, et qui peut chercher à retenir ou à obtenir un homme en portant un enfant. Il faut retenir que la femme aussi, quand elle se donne entièrement. Mais si cette capacité que Dieu lui a donnée ne trouve pas en face l'écho qu'il doit trouver, bien souvent cela se termine par la catastrophe. Je voudrais encore... pour bien nous situer dans ce que Dieu a voulu et ce que la chute a provoqué. Je voudrais encore prendre quelques passages, mais c'est surtout pour vous donner envie de lire tous ces livres. Dans les Proverbes, il y a de très nombreuses instructions. Dans Proverbes 5, versets 1 à 6, pour les hommes, mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. C'est une description de la prostituée, mais une mise en garde aux hommes sur ces sujets 15 à 20, dans ce même chapitre 5 des Proverbes. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangers avec toi, que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, etc. etc. Sois sans cesse épris de ton amour. C'est des textes qui, dans ma vie, compte tenu des errements de ma vie, m'ont bouleversé. Je voudrais dire ce matin que Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Dieu pardonne, Dieu restaure. Oui, oui, oui. Mais je vois les jeunes gens, jeunes filles, je voudrais vous crier de tout mon cœur, vraiment. Retenez ces paroles. Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et Dieu n'efface pas toutes les conséquences sur cette terre. Je crois qu'il... Je sais qu'il limite, mais il n'efface pas toutes les conséquences. David a péché, David a été pardonné, pas 10 ans après qu'il ait confessé son péché, mais David a eu des conséquences dans sa vie. Je voudrais aussi m'arrêter un petit peu sur Proverbe 31. Dans Proverbe 31, on dit souvent « Ah, la femme vertueuse », etc. Oui, je rappelle que Proverbe 31 commence par quelques versets au roi Lémuel, à un homme. « Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. » Ce n'est point un roi, Lémuel, ce n'est point un roi de boire du vin. C'est intéressant d'ailleurs, puisque à plusieurs reprises dans la Bible, le problème de l'alcool et du sexe sont liés. Mais ça, même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur savent bien quand même ces choses-là. Mais la parole nous le dit clairement. Moi, ça m'a beaucoup parlé quand je me suis converti. Proverbe 31, Marie, l'homme, sois à ta place. Alors, la femme pourrait être à sa place. Femme vertueuse, et là où on la voit, multitâche, enfin c'est intéressant, hein, c'est pas la boniche qui balaye la maison, c'est celle qui dirige la maison. On a du mal des fois à ça les hommes. La femme, elle dirige la maison. Dans l'autorité sécurisée de son mari. Mais elle dirige la maison. Vous ne mêlez pas de tout. Proverbe 31 nous dit « Son mari est considéré aux portes de la ville lorsqu'il siège. » On retrouve le rôle d'autorité, des fois d'investissement peut-être plus public. Mais le fruit du travail de l'épouse, de la femme et ses œuvres sont loués aux portes. Sont loués aux portes, indissociables. Son mari est considéré aux portes, mais aux portes, on sait qu'à côté, aux côtés du mari, il y a une femme. Et que le mari peut exercer ce qu'il a exercé, parce qu'il y a une femme à ses côtés, qui est à sa place. Alors, notre femme pécheresse. Notre femme pécheresse, eh bien, elle ne vit pas ça. Elle ne vit pas ça pour des raisons que, entre autres, je vous ai exposées. Mais maintenant, si on revient à cette femme pécheresse, là, au temps où Jésus la rencontre, ou plutôt, au temps où elle vient à Jésus, on va y revenir, elle est sous quel régime? la loi de Moïse qui prévoit, et plusieurs textes nous ont été donnés ce matin, des sacrifices pour un tas de situations. Globalement, on peut dire qu'au niveau de la loi de Moïse, il y a des sacrifices de prévus lorsque on a péché un peu par ignorance. Je fais simple. Mais il y a des choses, encore beaucoup de choses sous la loi de Moïse, pour lesquelles la sanction est la mort. Notamment, tout ce qui est péché de la sexualité, adultère, abomination, toute sexualité détournée de ce que, grosso modo, la sexualité hors mariage, et ce que le monde aujourd'hui pratique, mais pas d'aujourd'hui, des choses contre nature, la sanction est clairement la mort. Autant dire que cette femme, pour situer dans le moment où ça se parle, elle est sous un joug, une culpabilité extrêmement forte. Je rappelle que ce n'est pas la loi qui provoque la culpabilité, c'est le péché qui provoque la culpabilité. La loi est un révélateur du péché pour, j'allais dire, presque l'amplifier, pour qu'on comprenne qu'on est pris là-dedans, quoi. Et au-delà de la loi de Moïse, au temps où nous sommes du temps de Jésus, ceux qui étaient chargés, sacrificateurs, prêtres, religieux, chargés de mettre en œuvre les ordonnances du sacerdoce lévitique, étant des hommes eux-mêmes pécheurs, je vous rappelle que le sacrificateur, avant de sacrifier pour le peuple, doit sacrifier pour lui-même, parce qu'il est pécheur, et qu'ils sont eux-mêmes sous la loi, cela a provoqué des choses. Celui qui est sous la loi, dans un désir religieux de perfection, essayant de satisfaire la loi, va au contraire rajouter des textes et des textes, parce que comme il n'arrive pas à respecter la loi, il essaye de rajouter des appendices, des arrêtés nouveaux, qu'il pense pouvoir respecter. Ainsi, il essaye de se justifier lui-même. Alors on a des exemples dans la parole, Jésus les dénonce, il dit par exemple aux pharisiens, il est écrit « Honore ton père et ta mère », mais vous vous dites que si je donne de l'argent à l'église, ou eh bien alors j'ai plus besoin de secourir mon père et ma mère. Il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu en la remplaçant par des paroles d'hommes et vos traditions. Grosso modo, vous bricolez un truc pour vous donner bonne justice, mettre un joug sur les autres, bon, et puis au passage peut-être vous nourrir un peu grassement. Vous payez les dîmes de la menthe et de la nette, mais vous oubliez ce qui est le plus important, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il faut faire, sans oublier le reste. Mais c'est d'abord ça ce qu'il faut faire. La loi dit, puis pour revenir à notre sujet, si flagrant délit d'adultère, je vous rappelle que flagrant délit d'adultère suppose qu'il y ait une constatation, qu'il y a un adultère, or un adultère c'est un homme et une femme, cas classique. Comment se fait-il qu'en Jean 8, on amène à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère, seule? Lévitique 20, verset 10, est très clair. Si un homme et une femme sont pris en flagrant délit d'adultère, les deux périssent. Que s'est-il donc passé? Que les gardiens de la loi eux-mêmes aient oublié ce verset 10 du chapitre 20 de Lévitique? Il s'est passé que la chute provoquant l'homme passe de force à domination, de force à violence, il a dominé le sexe dit le plus faible. En tout cas, la force physique, la force de domination, etc. étant là, voilà ce qui s'est passé. J'insiste là-dessus parce que ça veut dire que la femme que nous considérons ce matin, la femme pécheresse, voilà sous le pesant fardeau sous lequel elle est. Vous allez me dire, si c'est ça la religion, et si c'est ça la Bible, alors je suis obligé de vous décrire là où on en est, au moment où la scène qui nous est présentée nous est rapportée. Dans ce contexte, comment cette femme a-t-elle osé entrer chez ce pharisien et s'approcher de Jésus? Comment cette femme? Est-ce que vous réalisez? Comment cette femme a-t-elle osé entrer dans cette maison? Il nous est dit, je reprends le texte dans Luc 7, Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Quand elle vient, elle sait très bien que Jésus, la rumeur était vite dans la ville, est chez un pharisien. Avec ce que je viens de vous dire, vous voyez pour cette femme ce que représente le pharisien. La loi, non seulement la loi de Dieu, mais tout ce qui est venu se rajouter au fil des siècles. Et elle vient dans cette maison, cette femme. Alors on pourrait penser à dire, bon maintenant ça suffit. Il y en a marre de tout ça. Elle aurait pu venir dans une révolte. Elle ne vient pas dans une révolte. Elle ne vient pas en défiant les autorités religieuses que représente le pharisien. Elle ne vient pas non plus en revendiquant une position de victime ou une position d'injustice par rapport aux déformations même de la loi dont elle est victime, ce qui est la réalité. Elle ne vient pas en se justifiant au motif que dans son enfance, elle aurait vécu des choses difficiles. Rien de tout cela. D'ailleurs, comme je le disais au début, cette femme, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Elle vient, elle entre dans cette maison. Elle se tient aux pieds de Jésus. Elle pleure. Elle baise les pieds de Jésus, essuie ses larmes avec ses cheveux et les enduit de parfum. Eh bien, frères et sœurs, cela, c'est la manifestation de l'œuvre de Dieu dans le cœur de cette femme. Dieu est intervenu. Dieu est intervenu dans la vie de cette femme. Il est intervenu. Et cette œuvre, elle a commencé avant la scène qui nous est rapportée. La scène qui nous est rapportée, c'est le dénouement, quand Dieu intervient dans un cœur. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et nul ne peut venir à moi, au Père, sans passer par moi, dit Jésus. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La vie de cette femme, je dis que cette œuvre, elle a commencé avant, parce que la vie de ces femmes, sa transgression, son péché, est connue de tous, c'est public. Et sans doute, avant la rencontre avec Jésus, avant que ce travail ne commence dans son cœur, c'est une femme qui devait se promener la tête haute, parce que quand on est dans un tel péché, la prostituée se promène la tête haute. Parce que sinon, elle craque. L'Écriture nous décrit parfaitement l'attitude de cœur de la prostituée qui s'est endurcie. Je rappelle que quand je parle ici de la prostituée, je vous le redis, je ne pense pas qu'à la femme. Je pense à tout pécheur, tout homme, personne éloigné de Dieu, qui est enfermé dans son péché, qui s'endurcit dans son péché. Il a la tête haute et il se justifie. Je ne lis pas ce passage, il est un peu long, mais il nous est rapporté, je crois, dans Esaïe, fils de Jérusalem, qui marchait la tête haute et le cou tendu. Parce que l'idolâtrie, parce que se détourner de Dieu, parce qu'à un moment on s'endurcit. Et cette femme, elle marche comme ça pour ne pas craquer. Elle, avec le métier qu'elle exerçait, elle n'avait pas les moyens de cacher sa honte. David, lui, était roi. Il n'a pas fait mieux, il a prémédité. Mais lui, il avait les moyens de cacher, pour un temps, son péché. Nous vivons aujourd'hui des choses sur la débauche dans le monde. Nous voyons les puissants qui peuvent cacher pour un temps. Et alors on alterne les informations, on présente la situation, bourreau, victime, dénonciation, procès, etc. Dans tout ce scandale, la parole encore nous parle. Ils dénoncent ce qu'ils font eux-mêmes. Ils dénoncent. Morale, je suis bien. Et derrière, la débauche. Mais on peut cacher. Pendant un temps, on peut jouir du pouvoir. Un jour. Alors, on peut se dire, ah, c'est bien, c'est dénoncé. Mais dans tout ça, c'est dénoncé. On parle de tout, on parle de bourreau, on parle de victime, on ne parle pas de péché. On ne parle pas de péché. La différence, les uns ont les moyens de cacher pour un temps, les autres, c'est su sur la place publique. Mais personne ne reconnaît son péché. Cette femme, voilà son parcours, et la voilà là, au pied de Jésus, parce qu'un travail a été fait dans son cœur. Et cette scène nous parle du changement de l'alliance. Trois personnages. Le pharisien, qui incarne, au-delà des excès, mais il incarne, oui, l'ancienne alliance, la loi qui mène à la mort, qu'on ne peut pas satisfaire. Et puis Jésus-Christ qui arrive, la grâce et la vérité qui mènent à la vie. Les hommes qui regardent aux apparences, la loi qui juge ce qu'elle voit, et Dieu qui regarde au cœur. Et la scène maintenant, le cœur de cette femme a été retourné avant qu'elle vienne là. Et c'est parce que son cœur a été retourné qu'elle a pu franchir ce qu'on dirait des interdits, qu'elle a pu être libérée, elle est là, libérée de l'oppression qui pesait sur elle. Et c'est l'action de Dieu dans son cœur qui l'a amenée à se dépouiller, dire « ouais, je suis comme ça, mais je viens à Jésus, je viens à Jésus. Je suis à ses pieds, je pleure sur mon péché, mais je suis, elle est là, elle est là, elle est libre déjà là, elle est libre là. » Comprenez cela. Elle est libre au moment où elle est au pied de Jésus. Elle a pu rentrer dans la maison de ce pharisien. Je le rappelle, sans révolte, sans propre justification de ce qu'elle a fait. Elle ne dit rien, elle pleure et c'est ça que Dieu, il attend de nous. La scène que nous contemplons, c'est la reconnaissance d'un cœur libéré du carcan de la loi et reconnaissant son besoin d'être pardonné. Et c'est ce qu'elle entend de la bouche de son Sauveur. Tes péchés sont pardonnés. Elle entend deux paroles. Elle entend deux paroles essentielles qui sont au cœur de la vie chrétienne. Tes péchés sont pardonnés. Jésus dit une réalité. C'est pour lui réalité parce qu'il sait qu'il est venu pour cela, pour mettre en œuvre le salut par sa mort à la croix. Historiquement, ce n'est pas encore accompli au moment où Jésus parle, mais éternellement, c'est accompli. Sa voix est prophétique. Il est prêtre, prophète et roi, Jésus-Christ. Donc il annonce, c'est fait. C'est fait. Je suis celui qui pardonne les péchés. Il faut comprendre l'étonnement de celui. Mais qui est celui-là qui pardonne les péchés? Seul Dieu peut pardonner les péchés, sous-entendu par le sacrifice lévitique. Non, je suis Jésus. Jésus est là. Jésus est là. Donc l'adultère, toutes ces choses qui ne pouvaient être réglées par la loi, il est là, il les règle. Cette femme a compris. Il illustre le serment sur la montagne. Et il met en œuvre, je vous rappelle que c'est dans Luc, que Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs. » Il met en pratique. Il met en pratique. Tout le monde est à l'action. Le Père attire. Le Père attire et la puissance avec laquelle le Père attire, la puissance avec laquelle le Saint-Esprit convainc de péché, donne la force à cette femme de venir au pied de Jésus. Deux paroles importantes. tes péchés sont pardonnés. Nous avons besoin d'entendre de la part de Jésus cette parole, de l'entendre dans nos cœurs, d'être touché dans nos cœurs. Et deuxièmement, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Elle a manifesté sa foi en venant au pied de Jésus. Elle a cru que oui, il était capable de lui pardonner. Va, va en paix. Je voudrais, pour terminer ce message, dire que cela, c'est vrai au niveau individuel, mais on ne peut pas oublier que c'est aussi le cœur de Jésus pour son Église, pour le peuple de Dieu, sa fiancée, son épouse. N'oublions pas que le peuple de Dieu est prompt à s'écarter de lui, jusqu'à la prostitution. Je vous renvoie au livre d'Osée, avec manière prophétique, Dieu qui demande à Osée d'épouser une prostituée, pour que le peuple comprenne où il en est, dans ce partage du cœur. Le Dieu unique et d'autres dieux. Cela n'est pas possible. Mais Dieu, il aime. Il aime son Église. Alors il dit, je l'amènerai au désert. Quelque part, l'Église de Jésus-Christ, à la fois, elle est au désert. Nous avons raison, parce que c'est notre vocation de manifester la richesse infiniment variée de Dieu. C'est la vocation de l'Église. Mais acceptons que c'est une traversée qui se fait dans un désert, au milieu d'un monde perdu, d'un monde qui n'aime pas Dieu. Arrêtons. Arrêtons de penser, oh celui-là il est bien disposé. Le cœur de l'homme n'est pas bien disposé pour Dieu. Si Dieu ne fait pas une œuvre dans ce cœur, personne ne peut venir à Dieu. S'il n'y a pas la puissance de Dieu agissant par le Saint-Esprit, convaincant de péché, personne ne peut venir au pied de Jésus et pleurer à ses pieds. Personne. Je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. Nous avons besoin, pas une seule fois, mais jour après jour. Vous savez, il y a quelque temps, je vais remettre ma veste parce que ma chérie va dire que je ne respecte pas. Je n'avais pas prévu ça. Je lisais, je parcourais l'autre jour un journal destiné aux jeunes, le monde chrétien. Il y a quelque chose qui m'a, je vous le dis, je ne l'avais pas prévu, mais pour illustrer, vous savez, la pureté, le mélange. C'était concernant les jeux vidéo. Je ne fais pas de fixation, je suis tombé là-dessus. Ouh, comme ça, je parcours. Et alors, il y avait une double page pour expliquer comment ne pas devenir addict aux jeux vidéo. Mais il était écrit, grosso modo, c'est ta passion, les jeux vidéo. Ben écoute, je vais te montrer comment vivre ta passion sans tomber dans l'addiction. Vous voyez, c'est un peu le problème. C'est un exemple, je n'ai pas cherché, je n'ai pas de fixette là-dessus. Mais ça a parlé à mon cœur. Ça a parlé à mon cœur des temps où nous sommes. Nous avons à user du monde comme n'en usant pas. Et ce n'est pas facile. À nous discerner. Je reviens, j'ai des fois critiqué les réseaux sociaux, mais on est d'accord, l'imprimerie existait, je suis au clair là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quand même le discernement. Arrêtons de tricher avec nous-mêmes. À quoi passons-nous le temps? Parce que si tu n'es pas dans l'addiction, mais que tu y passes quand même 2 heures, je ne sais pas où est la limite. Alors le monde où nous sommes dose tout ça. Dénonce, mais vas-y quand même. L'abus de l'alcool est dangereux, fumer tue. Mais vas-y quand même. Frères et sœurs, nous sommes dans ce monde-là. La prostitution est à la porte de nos cœurs. Qu'est-ce que nous vivons? Nous avons raison de proclamer. Et j'ai invité l'équipe de louange, je voudrais qu'on chante ce chant, je louerai l'Éternel. On va le chanter. Mais Seigneur, viens nous aider. Je vais prier. Seigneur, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, Seigneur, et Jésus-Christ. Et celui qui t'a fait connaître à nos cœurs comme Père. Père, je te demande ce matin, pour tous ceux qui sont orphelins, qui se sont égarés, qui se sont, Seigneur, prostitués, parce qu'ils cherchaient de l'affection, de l'amour. Père, attire-les, attire-nous, Seigneur, au pied de Jésus ce matin. Attire-nous au pied de Jésus. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu as tout accompli. Tu es assis maintenant, tu règnes. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi et donne, Seigneur, la force à celui qui est perdu dans ses errances, dans ses recherches d'amour, dans ses recherches de justification. Seigneur, donne-lui la force de venir dans cette maison ou là où ton nom est proclamé, Seigneur. Pleurer à tes pieds. Seigneur, je te prie pour notre communauté. Que, Seigneur, nous puissions pleurer. Nous puissions pleurer sur nos péchés. Que nous puissions pleurer sur nos échecs. Que nous puissions pleurer sur nos erreurs, Seigneur, sur nos fausses routes. Seigneur, donne à cette maison de connaître ton pardon. Seigneur, oui, guéris ton Église. Et Seigneur, c'est parce que nous croyons que tu es celui-là et que tu as la puissance d'accomplir ces choses que nous voulons encore te louer et de tout notre cœur ce matin, Père. Amen.